avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Pour l'Observatoire sociopolitique diocésain, nous accueillons ce mois-ci Louis-Jean de Barmont.
Patrimoine sensoriel et autres digressions. Le 21 janvier dernier fut une victoire rurale arrachée à l'absurdité de certains villégiateurs. La campagne et son bon sens venaient de faire taire l'ire suffisante de certains déracinés en protégeant par la loi les sons et les odeurs de la campagne, ces derniers faisant désormais partie du patrimoine commun de la nation. Plus d'un an déjà s'est écoulé depuis la présentation par le gouvernement le 20 septembre 2019 de son plan ruralité, abordant des thématiques variées élaborées à travers un cahier des charges de plus de 200 propositions autour de la cohésion des territoires, de la jeunesse, du numérique, de la santé. Dans le même temps, les maires ruraux s'étaient rassemblés en association durant les journées du patrimoine afin de nous faire un gros clin d'œil pour que nos terroirs ne deviennent pas ces grands cimetières sous la lune. Nos campagnes, rappelons-le, ne sont pas seulement des lieux de villégiature, mais bien des espaces façonnés, travaillés par des hommes et des femmes, nos agriculteurs, nos terriens, avec lesquels parfois, hélas, les liens tangibles ne vont plus de soi. Au premier chef de cette initiative, la franche volonté du député de la Lozère, Pierre Morel à l'Huissier, qui proposait en juillet 2020 un projet de loi visant à protéger les bruits et les odeurs de la campagne, et qui fut signé par 150 parlementaires. Une proposition motivée, rappelons-le, par une absurdité sans précédent, comme l'avait exprimé le député dans le Chasseur français de septembre 2019. L'an passé, des villégiateurs ont violemment interpellé le maire des Bondons, près de Florac, pour que la cloche d'une petite chapelle cesse de tinter. Il a refusé, bien sûr, additionné aux autres plaintes déposées un peu partout en France pour faire taire les églises, les vaches qui meuglent et les coqs qui chantent. Enfin, le 21 janvier dernier, le Sénat a voté l'adoption définitive de la loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Elle sera promulguée le 29 janvier 2021 et publiée au Journal officiel le 30 janvier 2021. Il a fallu en arriver là, nous, la France, dont l'assiette gastronomique est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis l'an 2010. Pays de Dom Pérignon, de Vatel, de Savarin, d'Escoffier. Pour nous protéger d'un énième suicide hexagonal, il a fallu passer par les fourches codines de la loi. Que penseraient nos anciens d'un tel processus à l'endroit d'une réalité qui leur était congénitale? Les ruraux ont résisté, car ils ont cette vertu dans le sang, mais aussi cette digne simplicité qui nous rattache à la vérité de ce que nous sommes. Un de nos écrivains nationaux d'exprimer « La vérité, c'est ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le chaos ». Notre Sud-Ouest s'est ravi de cette loi et beaucoup de parlementaires s'en font l'écho, à l'image de Max Brisson, sénateur des Pyrénées-Atlantiques, qui confiait au journal L'Éclair du 23 février « Je regrette qu'il ait fallu légiférer. La loi protège au final quelque chose de naturel. » Et de continuer « Sans vouloir généraliser, certains néo-ruraux semblent avoir du mal avec cela. » Alors que ces éléments font partie du patrimoine de nos campagnes. Patrimoine désormais protégé, ce qui aidera également les maires et les agriculteurs sur cette question. Alain Sanz, président des maires des Pyrénées-Atlantiques, dans le même journal exprimait ce qui suit. C'était important de graver cela dans un texte de loi. Cela devrait permettre d'éviter de futures procédures. Même si c'est à la marge, nous avons, nous maires et chacun dans nos communes respectives, de temps en temps des récalcitrants au bruit et odeurs de la campagne. Or, ils font partie de l'identité même du village, de notre territoire. La sonnerie des cloches, par exemple, rythme la journée, du réveil à la fin de la journée de travail. L'Aquitaine, région qui fait rayonner la popularité culinaire de la France par ses vins, Bordeaux en tête, cognac, armagnac, fromage, truffes et autres foie gras, gibier, pruneaux et huîtres du bassin d'Arcachon, autant de délices français auxquels bien des âmes succombent par bonheur, à l'image, peut-on imaginer, du curé de Cucugnan, protagoniste de la nouvelle d'Alphonse Daudet, écrivain du terroir, pressé d'en finir avec sa messe de minuit pour s'attabler et se hâter de déguster le petit Jésus en culotte courte. Je vous parlais du Sud-Ouest, qui à bien des égards est une des régions emblématiques de notre cuisine, qui a donné d'excellents chefs cuisiniers qui ont su et savent encore travailler les produits du terroir, favoriser le circuit court, la biodiversité et récompenser par là même l'auteur de ses œuvres au juste prix. La Nouvelle-Aquitaine a pris le pouls de ses territoires et de la diversité de ses paysages, qui plus est en cette période de malaise sanitaire qui a permis une prise de conscience en direction de notre trop grande dépendance à l'égard de certains produits issus de l'étranger, à l'exemple du soja, de l'huile de palme brésilien, de l'ail chinois. À ce titre, les initiatives sont nombreuses dans les 12 départements qui façonnent son nouvel espace. L'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine redouble d'efforts pour donner de la voix à la souveraineté alimentaire en promouvant la diversité de ses produits agricoles, mise à mal par une importation de produits extérieurs de l'ordre de 20% pour l'alimentation. La force de cette agence, c'est la synergie qu'elle met en œuvre autour de trois axes principaux que sont en premier chef les valeurs traditionnelles, les valeurs humaines et enfin les valeurs sociétales et environnementales. À ce sujet, une conférence débat sera organisée le 26 mars prochain avec la possibilité de la suivre en ligne sur le site de l'agence. La question de la francité dans la nourriture et donc de notre culture est l'épicentre des enjeux actuels et à venir. Eric Orsena de souligner lors d'un débat sur ce sujet « On est ce que l'on mange » et de poursuivre « Peut-être que se nourrir est plus important que de s'abonner à Netflix ». À travers cette allocution, une question d'identité nous est alors posée. Manger et boire français, c'est aussi se définir comme tel et s'agréger pleinement à cette singularité historique et nationale. Le futur combat pour l'identité pourrait-il glisser vers ce terrain-là ? Ne pas vouloir volontairement, en dehors du goût, déguster un alcool bien de chez nous ou de la charcuterie, serait-il le symbole d'une détermination à vouloir faire sécession avec la nation française, plus encore avec ses valeurs ancestrales ? La loi patrimoine sensoriel souligne dans son préambule la notion de patrimoine commun de la nation. Rappelons au passage ce qui fait une nation. Pour ce faire, je m'en remets à la définition d'Ernest Renan. Une nation est une âme, un principe spirituel. La nation, comme l'individu, est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes, un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire. Voilà le capital social sur lequel on assiette une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent. Avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore. Voilà les conditions essentielles pour être un peuple. Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. Aimer la France charnellement, c'est vouloir lui appartenir aussi par l'assiette. Manger français, c'est avoir les tripes pour se convaincre de l'essentiel et défendre ce qui caractérise nos villages, du clocher aux paysans et artisans, du curé au maire. Le patrimoine sensoriel remet donc les choses à leur juste place dans l'ordre du goût, des odeurs et des sons. Il permet aussi de rendre un culte à nos ancêtres, celtes, ibériques et germains, à notre culture gréco-latine, et à nous réjouir de cette devise fédératrice, more majorum, à la manière des anciens, expression tutélaire qui cimente aussi l'esprit de notre légion étrangère, symbole d'unité par excellence. Alors oui, la campagne française a de l'avenir, je crois même pouvoir dire que c'est l'avenir de la France, et que l'on y trouve de plus en plus souvent plus d'honneur qu'à la ville. Et l'on pourrait à grands traits justifier mon propos. Prenez l'humus, par exemple, cet agrégat magnifique sur lequel poussent nos légumes. Il est le dérivé du mot latin « humilité ». Quoi de plus honorifique que le travail des humbles ? N'est-ce pas un symbole fort pour nos âmes et notre humanité ? N'est-ce pas une allégorie à cette magnifique devise des moines bénédictins « ora et labora » ? Vécue comme telle d'ailleurs par un grand nombre de congrégations, de moniales et de frères, toujours à même de manier la pelle et la pioche, et qui sont pour beaucoup dans notre gastronomie nationale. À ceux qui voudraient bouffer du curé, il serait bon, au titre du génie culinaire des religieux, de leur proposer de se rendre dans l'une de nos 50 000 églises ou chapelles pour expier leur goinfrerie anticléricale et demander pardon. Rappelons au passage que nos églises, bien que faisant encore partie du paysage traditionnel de nos campagnes, n'ont pas vocation à devenir des pierres muséales, mais sont bien des pierres vivantes qui chantent et sonnent quotidiennement pour rythmer le travail des chants, rappeler la vocation de la France, pour accompagner nos baptêmes, nos mariages, nos enterrements. L'exception française, c'est aussi le clocher au centre du village. Ce patrimoine français sensoriel, cousu humain, transformé par du sang et de la sueur, pour beaucoup ceux des paysans, des terriens, des pêcheurs, qui n'ont eu de cesse de façonner, de défricher, de faire vivre nos existences à travers les leurs, car leurs douleurs, leurs cris de colère doivent être aussi les nôtres, à cette heure où la concurrence est rude et vient de toutes parts, comme je l'exprimais plus haut. De plus, outre cette compétition déloyale à laquelle doivent faire face nos agriculteurs, il existe aussi des aléas, les exigences de la transition écologique que nous voulons tous, mais qui occasionnent aussi des dommages collatéraux. Le principe de précaution en direction de nos élevages d'oies ou de canards que l'on décime pour se protéger contre la grippe aviaire est trop souvent l'ultime et seule réponse. Il ne faut pas non plus oublier les milliers d'exploitations agricoles qui ferment chaque année et les nombreux suicides que la profession essuie. Il y a urgence. Nous pouvons nous réjouir tout de même de l'audience réalisée par le documentaire du Béarnais Fabien Béziat, « Nous, paysans », qui a enregistré mardi 23 février dernier 5 millions de téléspectateurs publics confondus, véritable record selon le diffuseur qui n'avait plus cours depuis 2 ans. À n'en pas douter, ce mémorable succès réveille les espérances et confirme bien notre attachement à notre campagne et aux liens plus ou moins directs que nous avons avec le monde paysan, mais aussi avec nos aînés. Le réalisateur d'Exprimer, le film raconte la mutation ahurissante de tout un peuple. 80% d'agriculteurs au début du siècle, moins de 2% aujourd'hui. La crise sanitaire de la Covid-19 rebattrait-elle les cartes? Pour finir, je voudrais réitérer ce qu'exprimait la philosophe Hannah Arendt dans son livre « La crise de la culture » paru en 1961. Elle dresse une filiation intéressante entre différents mots. Nous démontrons que le vocable « culture » a des racines communes avec « religion » et « agriculture », ces ramifications racinaires venant exprimer dans leur étymologie commune le fait de préserver et de prendre soin. Ite missa est.
Avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.